Donc aujourd'hui, après une lecture principalement d'Aristote et puis de ses lecteurs, notamment Thomas d'Aquin, pour penser ce qu'était la techné et ce qui a culminé avec cette notion singulière d'instrument, hein, qui nous a poussé à dire que, d'une part, la notion d'instrument n'était pas une notion négative, puisque c'était, vous vous souvenez, une chose devient instrument quand c'est un être supérieur qui s'en empare, voyez, et lui permet de faire des choses étonnantes qu'elle ne pourrait pas faire par elle-même, vous vous souvenez, hein, c'est ça le propre de la causalité instrumentale. Et vous remarquerez de ce point de vue-là, d'ailleurs, que devenir un instrument, qui pourrait paraître quelque chose d'absolument horrible, aux yeux d'une société qui pense tout en termes d'autonomie, peut constituer la plus grande grâce, puisque des saints prient pour être les instruments de Dieu. Vous voyez ? Produire des effets qui dépassent notre nature, c'est possible si on est instrument entre les mains de Dieu. Mais instrument à la manière dont peut l'être une personne, c'est-à-dire non pas un instrument mort, non pas un instrument inerte, non pas un instrument qui serait entièrement déterminé par la main qui le dirige, mais qui, là, sous l'influx divin, exerce aussi des actes de liberté, vous voyez. Donc un instrument vivant, c'est un instrument responsable. Hein? Mais vous voyez bien, toute la notion d'instrumentalité, qui est très profonde, va gagner, bien sûr, la pensée du sacerdoce, hein, le prêtre comme instrument, hein. Et puis, même à la limite, la notion d'instrument peut devenir extrêmement positive, même dans l'ordre moral, vous voyez. Et ce que nous avions dit, bien sûr, en concluant, c'était de dire que finalement, la notion d'organon, d'instrument, qu'on parle en grec ou en latin, nous laissait entendre que nous n'avions plus aujourd'hui vraiment des instruments. Ou en tout cas, que l'appareil n'était pas... Le type d'outils que nous avions n'était plus des instruments à proprement parler, loin de se laisser traverser par celui qui en use. Eh bien, nous sommes plutôt des utilisateurs, et c'est plutôt les appareils qui nous formatent. Vous vous souvenez, hein, c'était ça la conclusion que nous avions proposée la dernière fois. Alors, je ferme. Maintenant, cette partie-là, pour arriver à la cinquième leçon sur la notion de culture. Et qui est une leçon qui voudrait ouvrir des pistes pour passer d'une pensée grecque à une pensée latine de la technique. Je vous l'ai déjà dit, les Latins sont couramment méprisés dans les chaires de philosophie. Quand vous allez à la chaire de philosophie antique, que ce soit à Fribourg, enfin encore à Fribourg, ça peut aller, professeur Karfik est un homme assez remarquable pour cela, mais si vous allez à la Sorbonne, par exemple, hein, la philosophie antique, c'est les Grecs. Il faut lire les Grecs. Et les Latins, je vous l'avais déjà dit, sont considérés comme, au mieux, des compilateurs, des vulgarisateurs de ce qu'il y a chez les Grecs, avec des pertes. Avec des pertes parce que la véritable écoute du mystère de l'être, la véritable écoute métaphysique, serait chez les Grecs et non pas chez les Latins. Et de fait, il est certain que les Latins sont plus pratiques que les Grecs. On a dit, hein, que si la pensée était grecque, le droit était romain. Et vous voyez, le droit, c'est ce qui vient réaliser la justice, non pas à partir d'une réflexion sur la nature simplement du juste, mais à partir, vous voyez, d'une efficacité juridique, d'un ordre politique, juridique, pratique. Et ça, c'est vraiment romain. De la même façon, les Romains se sont moins attardés que les Grecs, à savoir ce qu'était, dans son fond, la nature, la physis, ou ce qu'était même la nature humaine. si vous regardez bien, les Grecs essayent de penser l'homme, essayent de penser le grec par opposition aux barbares. Vous voyez, par distinction du barbare. Mais les Romains n'ont pas de problème avec les barbares, avec les étrangers. C'est un empire qui ne cesse de s'agréger d'autres peuples. Et ça ne leur pose aucun problème. Il suffit de faire allégeance à l'empereur, il suffit d'entrer dans ce qu'ils appellent la pietas, hein, un acte de piété. Et alors à ce moment-là, vous voyez, on est reconnu comme faisant partie de l'Empire romain. Il n'y a pas cette idée de savoir qu'est-ce que c'est qu'un homme. À tel point que quand vous regardez l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, vous savez que cette histoire qui est faite, bon, c'est un texte qui rassemble d'autres textes plus anciens qu'on a perdus, mais c'est une grande encyclopédie, pourrait-on dire, hein, où vous trouvez d'ailleurs des passages remarquables sur l'agriculture. Mais aussi, vous avez tout un livre qui concerne l'homme, et vous avez des descriptions d'hommes qui ne mangent pas, mais qui se nourrissent uniquement en respirant des parfums, d'hommes qui n'ont pas de tête, mais des yeux et des bouches sur leur torse, d'hommes qui sont tous plus étranges les uns que les autres, des peuplades complètement étrangères. On a l'impression que la gloire, si vous voulez, de Rome, c'est de dire « regardez, toutes ces peuplades qui ont l'air si étranges, eh bien, elles font aussi partie de l'Empire. Oui. » Ça, c'est quelque chose d'assez romain. Il faut avoir cette piété à l'égard de l'empereur, ou à l'égard, si vous voulez, de la République. J'y reviendrai, hein, parce qu'avant l'Empire, il y a quand même la République, et l'auteur dont on va parler, à savoir Cicéron, est un républicain au sens fort du terme, quelqu'un qui pense la chose commune sous un mode qui est celui d'un gouvernement qu'on ne peut pas appeler exactement démocratique, mais qui est celui des consuls, des... Voilà, et de ce point de vue-là, qui refuse un pouvoir centralisateur comme le voudra l'Empire, détruisant vraiment les libertés. Alors, en tout cas, qu'il s'agisse donc de république ou d'empire, il y a une manière autre que les Grecs de penser le rapport au monde. Et vous voyez, on est dans un ordre qui est beaucoup plus pratique. Donc c'est vrai, sous un certain rapport, les Latins sont sans doute, font moins directement de la métaphysique. D'accord. S'ils en font, c'est peut-être moins dans leur philosophie que dans leur poésie. Parce que les Latins ont ce que n'ont pas les Grecs, même s'ils ont de très très grands poètes, bien sûr, et puis même des poètes qui sont proches d'une parole quasi divine. Enfin, on pense à Homère, à Hésiode, à Pindare, et puis sous un autre rapport, mais c'est aussi une poésie religieuse extraordinaire, parfois à Sappho. Mais ils n'ont pas Virgile. Virgile, père de l'Occident, hein, dit un grand auteur qui s'appelle Théodore Ecker, et qui écrira sur Virgile, alors même qu'il y a cette montée du nazisme, comme une sorte de résistance, justement, au fascisme. Alors, il y a quand même Virgile, il y a des auteurs extraordinaires qui sont peu lus, qui sont méconnus parce qu'ils sont trop connus d'une certaine façon, à savoir Cicéron, on va en reparler. Il y a Horace, il y a tout ce qui va marquer finalement notre tradition. Et vous savez que pendant très longtemps, on a pensé que, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais ça reste quand même un peu vrai, parce qu'à chaque fois, il y a des traductions nouvelles qui paraissent, hein, de son œuvre. On a pensé que l'Énéide était une œuvre plus grande que l'Iliade et l'Odyssée. On a pensé que l'Iliade et l'Odyssée n'étaient que des préparations à l'Énéide, qui était le couronnement, vraiment, de la poésie épique. Et c'est un point très très important, Énée est un personnage clé de l'articulation entre le monde grec et le monde chrétien, en fait. Vous savez, souvent on dit, regardez chez les Grecs, Ulysse donc part à Troie, et puis l'Odyssée, c'est le retour vers chez lui, vers Ithaque. Et on dit, Abraham, lui, il part, mais il ne revient pas en arrière, il ne retourne pas à Ur en Chaldée. Vous voyez, il va vers le pays. Et on dit, on oppose souvent Ulysse et Abraham. Mais entre les deux, il y a qui ? Ben, il y a Énée. Parce qu'Énée, il est né à Troie. Il va quitter Troie dévastée précisément par les Grecs, c'est un Troyen, pour aller fonder en Italie. Et l'origine légendaire, si vous voulez, de Rome hein, et des Latins, c'est vraiment, vous voyez, cette origine d'un héros troyen exilé, parti, mais qui ne retourne pas, qui ne revient pas en arrière. Il revient tellement peu en arrière que Énée, c'est l'anti-Orphée. Vous savez, Orphée, quand il sort, il regarde derrière, et puis bon, voilà, Eurydice retombe en enfer, il ne devait pas la regarder. Mais Énée, quand il quitte Troie, en portant son père, il porte son père, c'est l'anti-Oedipe, déjà. Et puis, c'est l'anti-Orphée parce qu'il perd sa femme en chemin. Il est tellement pressé de sortir avec son fils qu'il ne sait même pas regarder. Il ne s'est pas retourné, lui. Et sa femme meurt. Derrière lui. C'est très intéressant. Enfin, l'Énéide est vraiment une œuvre prodigieuse. Il y a encore eu des traductions récentes, une de Paul Venn, il n'y a pas très longtemps, et puis la dernière d'Olivier Serre. Et vraiment, voilà un livre que vous devez lire. L'Énéide et les Géorgiques, dont je vais parler dans pas très longtemps. Les Latins sont moins enracinés que les Grecs de ce point de vue-là. D'ailleurs, chez les Grecs, vous avez un personnage légendaire, de roi légendaire, hein, qui serait à l'origine même de la population athénienne, qui s'appelle Érechthée. Et Érechthée, c'est un roi qui serait directement jailli de la terre. Il n'aurait même pas d'ascendance humaine, voyez. Et il est à l'origine aussi du peuple athénien, c'est-à-dire l'attachement à une terre. Vous voyez, ce côté chthonien, profondément tellurique, et donc quelque chose qui se trouve dans la mythologie grecque. Mais quand vous voyez le mythe de fondation, justement, à l'origine des Romains, mais non, il n'y a pas cet enracinement. Énée, ce n'est pas Érechthée. Énée n'est pas sorti de la terre. Énée est quelqu'un qui débarque sur une terre étrangère. Et il va être quoi, donc ? Il va être un colon. C'est un colon. Ce mot est un mot désormais péjoratif. Pourtant, ce mot vient du mot qui donne culture, du verbe qui donne culture. Ça vient de coléré. Donc c'est le même mot. C'est celui qui cultive, c'est celui qui soigne le colon. Ce n'est pas celui qui écrase, qui s'installe de telle sorte qu'il dévaste ce qu'il y a autour de lui. Vous savez même que pendant très longtemps, on a essayé de justifier le droit colonial. À partir de cela, une terre appartient à celui qui la cultive. Ouais, si elle est en friche, elle appartient à personne, mais celui qui est capable de cultiver cette terre, de la mettre en valeur, eh bien, ça lui revient. Ça, c'est un principe important, vous savez, du droit colonial à l'origine. Le problème, c'est que, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit, donc vous voyez, on arrive en Afrique, les nègres, là, ils ne cultivent pas vraiment leur terre, vous voyez, ils laissent tout en friche, c'est des demi-humains, vraiment, bon, c'est pas vraiment ça. Donc nous, on arrive, on va vraiment la mettre en valeur, donc ça nous appartient, vous voyez. C'est à nous que ça appartient, pas à eux, parce qu'eux, ils ne savaient pas vraiment quoi en faire. Oui, mais attendez, cultiver une terre, ce n'est pas simplement mettre en valeur ses ressources minières, vous voyez. C'est aussi tout cet attachement aussi historique, symbolique à la terre. Et ça a été toutes les déviances du droit colonial. Mais vous comprenez, comment est-ce que le Romain justifie sa présence sur un sol? Non pas parce qu'il y est né, puisque la légende veut que, justement, il débarque, mais parce qu'il le cultive. De telle sorte que, chez les Romains, la notion de culture va être essentielle, et c'est pour ça que la poésie et la pensée latine vont culminer dans l'exaltation de l'agriculture. Quelque chose qui nous paraît aberrant aujourd'hui. Bon, c'est sûr, c'est difficile de chanter un tracteur, si vous n'êtes pas un poète futuriste des années 20. Mais enfin, bon, c'est quand même la grande question. Aujourd'hui, chanter l'exploitation agricole avec les pesticides, avec la politique agricole commune, avec la PAC, d'ailleurs c'est aujourd'hui, enfin non, on dit la PAC, c'est pas pareil, pas confondre avec la PAC. Avec des conditions qui deviennent de plus en plus invivables, avec finalement le suicide fréquent des agriculteurs, eh bien, vous voyez, on ne voit pas comment on peut chanter ça. Mais, et même les Grecs, ce n'est pas ce qu'ils ont chanté principalement, mais les Latins ont chanté cela. Si vous prenez le début des Géorgiques de Virgile, écoutez les premiers vers, il ne va pas chanter la colère d'Achille, lui. Bien sûr, il va commencer l'Énéide aussi, mais en disant voilà, qu'il va délaisser le pipeau agreste parce qu'il avait fait les bucoliques avant, etc., pour chanter les combats de Mars. Donc ça ressemble à Homère, là, on est d'accord. Mais là, c'est autre chose. Vous voyez, les Géorgiques, c'est, écoutez le début, hein, ce qui fait les grasses moissons, sous quelle constellation Mécène, c'est adressé à Mécène, hein, le Mécène d'ailleurs, il convient de retourner la terre et d'unir les vignes aux ormeaux, quelle sollicitude exigent les bœufs, quels soins l'élevage du petit bétail, quelle expérience les abeilles économes, voilà ce que je vais me mettre à chanter. Voilà ce qui pousse le plus grand poète de l'Occident à chanter. Et il y aura très peu de textes comme ça. Francis Jammes sera un des derniers, il écrira les Géorgiques chrétiennes, un magnifique texte de la poésie, de la littérature en général. Mais, vous voyez, c'est ça la culture latine, c'est ça notre culture, c'est de là que vient notre mot culture, justement. De ce chant de ce qui est la culture en premier lieu pour les Latins, à savoir l'agriculture. Et c'est très difficile pour nous de penser cette poésie-là, aujourd'hui, qui est la poésie latine dans ce qu'elle a de plus élevé. Donc vous voyez, l'Énéide est une transformation, mais ça reste quand même de la poésie épique, mais cette grande poésie géorgique, hein, géorgique ça veut dire agricole, hein, c'est vraiment un point fondamental chez les Latins. Parce qu'ils ils ont à justifier, je vous l'avais dit, le fait qu'ils sont des colons, qu'ils arrivent, et que c'est cultiver la terre qui fait qu'on la possède. Mais on la possède comme un don de Libère et Cérès, hein, c'est-à-dire de Dionysos et Déméter. Alors voilà, je vous ai. L'autre chose que je voulais vous dire toujours en introduction, c'est que beaucoup d'auteurs, et des auteurs qui ne sont pas des poètes, vont écrire des textes intitulés De re agricultura. Quand vous êtes De agricultura, oui, c'est ça, oui, je crois que c'est un truc comme ça, voilà. Quand vous êtes un homme de la haute société romaine, quand vous êtes un consul, quand vous êtes un homme politique, vous écrivez un traité d'agriculture. Ça, c'est typiquement romain. À tel point que Cato Major, Caton l'Ancien, dans sa préface à son traité d'agriculture, écrit la chose suivante. Lorsque nos ancêtres voulaient louer un bon citoyen, ils lui donnaient les titres de bon agriculteur et de bon fermier. Ces expressions étaient pour eux la dernière limite de la louange. C'est extraordinaire, hein ? La dernière limite de la louange pour quelqu'un, c'est pas de dire que c'est un grand guerrier, c'est pas de dire que qu'il a fait des exploits artistiques extraordinaires. Je sais pas, non, c'est pas ça. C'est qu'il est bon agriculteur et bon fermier. Et cela signifie qu'il a pris soin de la terre, qu'il est capable de nourrir sa famille, qu'il est capable de nourrir les hommes, et donc qu'il est capable de réaliser la première justice. C'est ça qui est au fond. La base de l'économie, on en avait parlé, je ne vais pas revenir là-dessus quand on avait fait le cours sur la famille, hein, sur la notion d'oïkos. Mais vous voyez, la base de l'économie, c'est là, parce qu'il faut manger. On ne pourra jamais se débarrasser de l'agriculture. On a créé un monde, je vous l'ai dit, hein, on a créé un monde où on nous fait croire que la base de l'économie, c'est la finance, c'est l'argent, que la base de la vie humaine, ce sont les développements technologiques. Mais non, c'est l'agriculture. La grande distribution qui efface le rapport aux paysans et qui invente des techniciens agricoles, fournisseurs de grosses machines de vente, voyez, cette grande distribution efface le rapport au monde paysan, efface le monde paysan tout court. Et donc à cause de cela, nous sommes persuadés plus ou moins que les produits apparaissent un peu magiquement dans les rayonnages. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on demande une traçabilité, mais la traçabilité n'est pas du tout le rapport au monde paysan. La traçabilité, c'est le rapport à notre propre santé, à notre propre diététique, si vous voulez. Donc c'est encore une question technique qui est en jeu et une question de paramétrage de notre santé. Vous voyez ? Mais on ne sait plus ce qu'il y a derrière. Vous vous souvenez, je vous avais toujours parlé de cette opacité que produit la machinerie technologique. Et là, c'est un lieu typique, la grande distribution, d'opacification du rapport, je ne vais pas dire à la terre comme telle, mais vraiment au monde paysan, à la production des nourritures. Or, les Latins sont très conscients de cela, c'est ça qui est premier. Donc, si vous avez été un bon paysan, si vous avez été un bon fermier, un bon agriculteur, eh bien, vous êtes un bon citoyen. Citoyen, le bon citoyen, ce n'est pas celui qui va à la tribune et qui dit de qui il faut couper les têtes. Ça, c'est l'invention de la Révolution française, et c'est ça le bon citoyen. Celui qui monte à la tribune et qui dit « voilà le méchant, on va lui couper la tête, tout va aller mieux ». Ce n'est pas l'indigné, même. Ce n'est pas ça le bon citoyen. Aujourd'hui, on a un petit peu des choses de ce genre. Mais... Non, c'est le bon agriculteur, le bon fermier. Et... À côté de cela, vous avez justement Virgile, ce texte des Géorgiques, justement, enfin ce verset du Géorgique. Voilà ce qu'il écrit. « La charrue n'a plus les honneurs dont elle est digne, les champs en friche ont été privés de leurs cultivateurs, et les faux recourbés sont fondus pour devenir des épées rigides. » C'est intéressant, hein, j'ai mis dans un texte qui va apparaître bientôt dans Nova et Vetera, en parallèle ces vers de Virgile avec les versets d'Isaïe, où il dit « les épées seront changées en charrues ». Et là, vous voyez, il dit « ah, les charrues ont été remplacées par l'épée rigide ». Vous voyez, le parallèle. L'un qui évoque une perte et l'autre qui parle de l'avènement du Messie comme le retour du soc et de la charrue. On aurait fait fondre les épées comme cela, vous voyez. Donc, vous vous rendez compte, ici, ce n'est pas la gloire guerrière, c'est la gloire agricole qui est en jeu. L'épée vaut moins que la charrue. L'épée rapporte moins d'honneur et moins de gloire que la charrue. Donc, voilà l'univers latin. Alors, j'ai juste une petite remarque, hein, quand même. j'ai eu tendance à dire « les anciens disent cela », ou « les grecs disent cela », « les latins disent cela ». Bon, bien sûr, c'est comme si on disait « voilà ce que pensent les Français, voilà ce que pensent les Suisses ». Alors vous, comme vous êtes Français, vous savez qu'à l'intérieur, il y a plein de gens qui pensent des choses complètement contraires, ça n'a pas beaucoup de sens, cette phrase. Vous voyez ? Donc quand je dis « les anciens » ou quand je dis « les latins », forcément, ce n'est pas tous. Il y en a qui pensent à rien, forcément. C'est pas leur... Il faut autre chose, autre chose à faire. Il y en a même qui ont pensé le contraire. Donc, le contraire de ce que je suis en train de vous dire. C'est certainement. Et ce n'était pas monolithique, tout le monde ne pensait pas la même chose, ou tout le monde n'était pas en train de penser. Donc, quand je dis ça, forcément, c'est des raccourcis. Ce que je mets en avant, c'est quelque chose qui a été vu par des grands penseurs latins, par des grands poètes latins, par ceux qui peuvent être nos maîtres à l'intérieur de ce monde-là, d'accord ? C'est pas le voilà. Si on devait penser la modernité, on dira voilà ce que pense l'homme moderne. On va prendre des personnes exemplaires de cette époque-là, mais c'est pas tout le monde à cette époque-là, d'accord ? Alors d'abord, donc on va revenir à ce mot culture. Qu'est-ce que veut dire ce mot de culture ? Hannah Arendt, vous avez une citation ici, nous dit la chose suivante, dans son livre qui s'intitule d'ailleurs « La crise de la culture ». « La culture, mot et concept, est d'origine romaine. Le mot « culture » dérive de « colere »,« cultiver »,« demeurer ». Vous voyez la richesse du terme, cultiver bien sûr, demeurer, ben oui, comment on sait que ça veut dire demeurer ? Parce que comment est-ce qu'on appelle un singe qui habite dans les arbres, un singe ? Vous ne savez pas ça ? Voilà, merci. Pierre-Augustin intervient pour ne pas dire une connerie. Non, rajoutez pas. Non, c'était très bien comme ça, Pierre-Augustin. Voilà, chut. Parce qu'il a un champ lexical très étendu. C'est vrai, il écrit très bien. C'est pour ça d'ailleurs que dans ses copies, il met plus de paroles que de pensées. Mais il est fort pour ça. Et là, vous voyez, il a trouvé le mot. Donc, arboricole, le singe arboricole, bien sûr, qui habite les arbres, arénicole, qui habite le sable. Oui, parce que l'arène, c'est une étendue de sable. Hein. Etc. Vous voyez, le verbe colérer sert, on va le rencontrer à plein d'endroits pour dire c'est une action fondamentale de l'homme. Parce que c'est même sa manière d'habiter, de demeurer quelque part. Habiter quelque part, c'est colérer. C'est-à-dire prendre soin. Vous voyez, habiter, ce n'est pas simplement se loger quelque part. Habiter, ce n'est pas simplement occuper un espace. Habiter, c'est vraiment cultiver. La culture réalise l'acte d'habitation. Et vous voyez qu'on retrouve cette thèse que je vous ai donnée au départ. Les Romains arrivent dans un lieu qui n'est pas le leur, ce sont des étrangers dans un pays, mais ils vont l'habiter, ils vont y être chez eux parce qu'ils le cultivent. Vous voyez donc le lien entre le colon, le cultivateur et l'éloge du citoyen romain. Oui ?
Et en plus de tout cela, il me semble que colérer, c'est aussi rendre un culte religieux.
Alors bien sûr, on y arrive. Prendre soin, entretenir, préserver. Et renvoie, alors voilà ce qui est dit, hein, et renvoie primitivement au commerce de l'homme avec la nature en vue de la rendre propre à l'habitation humaine. Et la définition, hein, colérer, c'est le commerce de l'homme avec la nature en vue de la rendre propre à l'habitation humaine. C'est vraiment une chose qu'a essayé d'ailleurs de dire Heidegger quand il essaye de penser l'éthos. Éthos, c'est habiter, dira Heidegger. Et l'homme habite le monde, mais pour l'habiter, justement, ça relève d'un certain rapport à la technique, à la techné. Eh bien, ça se trouve chez les Latins. Ce n'est pas que chez les Grecs. Et peut-être même plus chez les Latins que chez les Grecs. En tant que tel, il indique une attitude de tendre souci et se tient en contraste marqué avec tous les efforts pour soumettre la nature à la domination de l'homme. Vous voyez, attention, colérer, ça n'est pas soumettre la nature. C'est un commerce de l'homme avec la nature en vue d'une habitation, mais ça n'a rien à voir avec la domination de l'homme sur la nature. Et pourquoi n'y a-t-il pas de domination ? Parce que précisément, la nature est reçue comme un don qu'il faut cultiver, mais qui vient donc des dieux. Et c'est pour cela que, c'est pas simplement le mot cultiver qui vient de ce verbe-là, mais c'est le mot culte. Et comme le faisait observer Loris, justement, ça renvoie aussi au rapport aux dieux. Colérer, c'est aussi rendre un culte aux dieux. Vous voyez, on a, d'une certaine façon, le verbe colérer qui va désigner la totalité de la demeure de l'homme ou de l'habitation humaine, va renvoyer d'une part à la culture de la terre, d'autre part au culte des dieux, et au milieu, au milieu, qu'est-ce que vous avez ? Vous allez avoir ce qu'on appelle la culture, qui est la culture de l'esprit ou de l'homme. Le mot qui est employé, c'est le mot animus, sachant que ce n'est pas anima, hein, c'est animus. Et vous avez deux mots en latin, hein. Vous avez anima et vous avez animus. Anima, dit, c'est ça qu'on traduit par âme. Mais animus, on va le traduire plutôt par esprit. Bon. C'est pour cela que Hannah Arendt dit « Il semble que le premier à utiliser le mot pour les choses de l'esprit et de l'intelligence soit Cicéron ». Vous voyez, il y a la culture de la terre, le culte des dieux, mais le premier qui va parler de cette culture qui serait, on pourrait dire, intermédiaire entre la terre et les dieux, la culture, le mot culture qu'on emploie aujourd'hui, hein, l'homme qui se cultive lui-même, une opération qui est une opération là désormais donc immanente, hein, on ne rend pas un culte ni au Très-Haut, ni à la terre très basse, mais... Vous voyez, cette opération où l'homme se transforme lui-même en se cultivant, c'est Cicéron le premier qui aurait fait ce transfert. En tout cas, c'est la première trace qu'on trouve dans les Tusculanes, dont on va lire le texte. Hannah Arendt continue en disant, il parle de excolere animum, donc de cultiver l'esprit, et de cultura animi, au sens où nous parlons aujourd'hui encore d'un esprit cultivé. Avec cette différence que nous avons oublié le contenu complètement métaphorique de cet usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de culture, nous avons oublié que cela renvoie d'abord à la culture de la terre. Vous allez aujourd'hui au ministère de la culture, mais vous tombez sur les pires des pédants et des snobs qui n'ont rien à voir avec la culture de la terre. Si, dans une sorte de rêve romantique. Vous voyez ? Bien sûr. Mais tout ce qu'il propose pour le développement, pour la production des objets culturels, c'est tout le contraire de ce lien avec la culture de la terre et le culte de Dieu. Pourtant, ce serait ça un ministère de la culture. Ce serait un ministère qui propose des œuvres qui nous permettent de faire la passerelle entre la terre et le ciel. Oui, c'est ça. Ouais, ce serait un vrai ministère de la culture. Et donc, c'est Cicéron qui est à l'origine de ce transfert depuis la terre vers l'âme, ou vers l'esprit, ou vers l'homme lui-même. Alors, je vous ai mis le passage des Tusculanes, Tusculanum, c'était l'endroit où Cicéron avait une résidence, une villa, loin de Rome. Vous savez que à partir du moment où la République est renversée et où commence l'Empire avec César, Cicéron va d'abord s'allier à Caton, Caton dont j'ai dit beaucoup de mal à cause de l'apologie du suicide qu'on trouve toujours, vous vous souvenez, chez Sénèque. C'est pas Caton l'ancien, hein, c'est Caton, justement, l'autre. Caton, qui après l'échec de la révolte contre César, va se donner la mort, ou en tout cas va se tuer. Et lui, Cicéron, qui faisait partie de cette rébellion, va se retirer, il est plus ou moins mis en exil aussi, et puis il va, bien sûr, être tué, enfin, il va être assassiné. Lui, il ne s'est pas suicidé, remarquez, hein, mais il sera assassiné par César. Il va envoyer ses hommes. Il y a quelque chose de très étonnant, et dans tous ses grands livres, il parle de sa retraite comme ce qui va lui donner la liberté d'écrire, enfin, des livres de philosophie, hein, qu'il avait dû laisser, mais il va toujours dénoncer le pouvoir impérial. Et c'est pas rien, Cicéron, c'est pas qu'un orateur, c'est un penseur, mais c'est aussi un homme qui va avoir le courage de dénoncer le pouvoir, l'extension de l'Empire et l'écrasement de la République. Il va toujours réaffirmer l'importance d'une République, d'une chose publique, d'un bien commun qui n'est pas entre les mains simplement d'un despote, où on ne gouverne pas simplement par décret, vous voyez. Peut-être parce que justement il voit ce lien entre le bon citoyen et le bon agriculteur, vous voyez, qu'un pouvoir qui serait totalement d'en haut, vous voyez, perd le rapport à la terre. C'est peut-être ça le problème pour lui. Donc, Cicéron va se retirer, en plus il va perdre une de ses filles, donc il va être très malheureux. Il écrit les Tusculanes, texte qui est d'abord un texte sur la philosophie. Ce n'est pas son premier texte d'introduction à la philosophie. Le grand texte d'introduction à la philosophie, il est perdu. Il est perdu et il n'est pas perdu. Il est perdu parce que nous n'avons plus le texte, mais en même temps, c'est le texte qui s'est le moins perdu, parce qu'il a été décisif dans la conversion de saint Augustin. C'est intéressant, ça. Donc, on peut dire qu'il n'a pas écrit en pure perte. Saint Augustin, dans les Confessions, parle de sa lecture de l'Hortensius, qui renvoie d'ailleurs au jardin, vous voyez, comme ce qui va vraiment le convertir à une vraie recherche de la sagesse. Avant cela, il aimait jouer avec les mots, c'était un grammairien, c'était un homme extrêmement habile. Mais tout d'un coup, il se rend compte que la quête de la vérité, ce n'est pas pour rien, quoi. Et c'est en lisant Cicéron qu'il a cette conversion. Première conversion, ce n'est pas la conversion au Christ, mais première conversion à la sagesse. D'accord ? Donc, il y aura ces textes, le traité des devoirs, des officiis, et puis vous avez un texte donc plus sur des choses plus fondamentales, les Tusculanes, texte qui va parler de la mort, qui va parler de la souffrance, qui va poser la question, vous voyez, des questions de morale, disons, mais de manière très générale et sur des questions fondamentales qui sont celles notamment de notre rapport au mal. Voilà. Alors, ce mot culture apparaît dans ce texte des Tusculanes, c'est-à-dire alors que Cicéron est dans une villa où il a des champs devant lui et où il est justement celui qui est... Il est le chef d'un domaine agricole, vous voyez. Donc il écrit ce texte dans cette atmosphère-là. Il est entouré d'un monde agricole. Et il va évoquer la nature même de la philosophie, et c'est en parlant de la philosophie qu'il va parler de la notion de culture. Alors vous allez voir, c'est un passage très particulier, parce que Hannah Arendt dit, voilà, Cicéron parle, c'est souvent ce qu'on dit, ça vient de Cicéron, cultura animi, mais on voit rarement dans quel contexte c'est posé. C'est posé à partir de l'idée de l'impuissance de la philosophie. Là, c'est un point très important, vous allez voir. Juste une petite remarque préalable. Heidegger, qui pour penser la technique, bien sûr, est un de nos maîtres, mais comme tout maître véritable, on doit se permettre aussi de le critiquer pour montrer qu'il n'est pas le maître ultime, puisqu'un maître, il est plus grand. Un maître, ça veut dire magis, mais il n'est pas le plus grand. Donc s'il nous renvoie au plus grand, ben, il n'est pas absolument plus grand. Il est relativement plus grand. Eh bien, Heidegger, il faut le critiquer parce qu'il a, bien sûr, c'est lui qui a pensé que la pensée latine était une déchéance par rapport à la pensée grecque. Toujours affirmer cela. Je vous ai dit pour quelle raison, hein? Parce qu'il voulait dire que nous, les Allemands, qui n'avons pas une langue latine, nous sommes plus à même de penser avec les Grecs. C'est ça la grande thèse de Heidegger. En revanche, les Italiens, les Français, ils sont tellement proches de la langue latine que finalement, ils ne peuvent pas bien entendre les Grecs, parce que toutes les transformations des mots grecs en latin, toutes les traductions ont été des catastrophes métaphysiques. Traduire energeia par actus, c'est une catastrophe. Alors, il dit, une des catastrophes, c'est d'avoir traduit philosophie par culture. Il dit, voilà, c'est, les latins entendent la philosophie comme culture. C'est pas bien. Vous vous rendez compte, la philosophie comme culture, c'est pas ça. La philosophie, c'est l'ouverture au mystère de l'être, l'ouverture à la question de l'être, à la revendication de l'être. Sur, bon, vous connaissez toute la rhétorique heideggerienne, vous en aurez un cours entier là-dessus. Oui, d'accord, mais curieusement, lorsque Heidegger va parler de ce qu'il entend par une écoute de la question de l'être, il va dire « l'homme est le berger de l'être », par exemple, classique chez Heidegger. L'homme est le berger de l'être. Et il va reprendre des images agricoles, il va reprendre... Et donc finalement, il retrouve la notion de culture.
Il s'en est pas rendu compte ?
Il s'en est peut-être rendu compte, en tout cas il a fait un faux procès, si vous voulez. Bon. Mais c'était bien sûr le procès à la suite de Hölderlin de glorification de la langue allemande dans sa proximité avec le monde grec. Parce que c'était une manière de se séparer, enfin... De montrer, d'inventer, d'ailleurs justement, une culture allemande qui pouvait rivaliser avec la culture latine. Ce qui a été assez réussi d'ailleurs, hein, je dois dire. Mais ça a été un projet très important. Et tout l'idéalisme allemand va aussi se développer à partir de cette dimension-là. Déjà, hein, c'est déjà chez Hölderlin, c'est pas Heidegger qui invente cette histoire-là. Voilà. En France, le mépris des latins vient d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, hein, ça vient de l'Empire. Hein. Ça vient du Second Empire, parce qu'il faut fonder l'idée de l'Empire sur autre chose que la monarchie, finalement d'origine latine, enfin liée à l'Église latine. Donc on va inventer nos ancêtres les Gaulois. Et donc on va dire, mais non, en fait, l'empereur, lui, c'est la puissance populaire qui vient, et remontons à Vercingétorix, et remontons à... Vous voyez, et on court-circuite toute la monarchie capétienne, comme ça. Vous voyez. Et c'est à partir de là qu'on a dit, non, les Latins, les Romains, c'est pas bien, etc. Et ça tient jusqu'à Astérix, en fait. Hein. Mais c'est un vrai problème, parce que c'est oublier le fondement latin de nos humanités. Donc... dans quel contexte Cicéron va employer le mot culture, va traduire philosophie ou va définir ou expliciter le mot philosophie avec le mot culture? Eh bien, dans un passage où l'auditeur, c'est un dialogue, hein, l'Étusculane, entre un auditeur et Cicéron, où l'auditeur va dire à Cicéron, mais on voit quand même qu'il y a des philosophes qui se sont mal comportés. Il y a des philosophes qui ont été, pour reprendre une expression de Jean-Paul Sartre, des salauds. Vous savez, c'est toujours bien quand vous employez un terme vulgaire et vous dites, pour parler comme Jean-Paul Sartre, des salauds. Vous voyez, ouais. Comme disait le maréchal Cambronne, merde. Bon. Donc, c'est très intéressant parce que justement, c'est le problème de Heidegger. D'avoir été un des plus grands penseurs, d'avoir eu sa carte du parti nazi et d'avoir eu un rapport quand même, bon, pas très très clair. on le sait, ça c'est indéniable, durant la Deuxième Guerre mondiale. Et vous voyez, c'est intéressant, parce que c'est faire de la philosophie, et puis on peut mal se comporter. La philosophie, pourtant, est poursuite de la sagesse. Le philosophe, on est encore dans l'Antiquité, hein, le philosophe, ce n'est pas un professeur d'université, hein, je vous rappelle, hein, chez les anciens, un philosophe, ce n'est pas un professeur d'université qui ennuie ses élèves toute la journée, qui ont des examens à la fin. C'est d'abord un art de vivre qu'a d'être philosophe, un art de vivre, si j'ose dire. En tout cas, il y a une éthique, il y a une manière de vivre qui va distinguer le philosophe même des autres personnes. Et là, c'est encore pensé comme ça. Et la remarque que dit l'auditeur, c'est on voit bien qu'il y a des gens qui ont fait de la philosophie qui se sont mal comportés. Donc, il y a un problème. Ce n'est pas la philosophie qui va nous sauver, vous voyez. Il y a un problème autour de la philosophie. Et c'est à ce moment-là que dit oui, ben justement, mais c'est parce que la philosophie, c'est une culture. C'est curieux, ça. On va lire le passage. Il explique la raison pour laquelle la philosophie ne rend pas automatiquement meilleure. Voilà ce que dit l'auditeur. Mais si cela est, c'est-à-dire la philosophie est poursuite de la sagesse, on devient plus sage, n'y a-t-il pas à craindre que les louanges dont vous comblez la philosophie ne soient bien mal fondées ? Car puisque ses plus habiles maîtres ne sont pas toujours d'honnêtes gens, ne s'ensuit-il pas de là qu'elle n'est bonne à rien ? On peut être un habile maître en philosophie et ne pas être honnête. Voilà la remarque de l'auditeur. Comment est-ce que c'est possible ? Et voilà la réponse de Cicéron. On aurait tort de conclure ainsi que la philosophie n'est bonne à rien. Car de même que tous les champs, C-H-A-M-P-S, quoique cultivés, ne rapportent pas, et qu'il n'est point vrai, comme l'a dit un de nos poètes, que de soi le bon grain sans besoin d'aliment dans un champ même ingrat sait croître heureusement. Regardez la traduction quand même. Mon bon alexandrin français. C'est-à-dire, c'est vrai que les champs, alors même qu'on les cultive, ne rapportent pas. Il y a des champs qu'on cultive et qui ne rapportent pas. D'accord ? Mais il faut cultiver le champ. Parce que ce n'est pas vrai de croire que le grain va donner complètement, pleinement, tout seul. Il y a aussi un apport de l'homme. Je vous rappelle, hein, cette dimension de la culture, c'est de ne pas mépriser la dimension d'activité humaine. C'est une certaine technique qui est en jeu. De même, tous les esprits, quoique cultivés, ne fructifient point. Et pour continuer ma comparaison, je dis qu'il en est d'une âme heureusement née comme d'une bonne terre, qu'avec leur bonté naturelle, l'une et l'autre ont encore besoin de culture si l'on veut qu'elle rapporte. Or, la culture de l'âme, c'est la philosophie. Voilà, c'est là le grand passage. Hein. La culture de l'âme, c'est la philosophie. Cultura animi, hein, culture de l'esprit, culture de l'homme. Elle déracine les vices, elle prépare l'âme à recevoir de nouvelles semences, elle les y jette, les y fait germer, et avec le temps, il s'y trouve abondance de fruits. Donc vous voyez, ici, le mot « culture » apparaît pour parler de la philosophie, pour dire, bah, vous voyez, en philosophie, je peux vous faire un bon cours, je peux jeter, vous pouvez fréquenter des sages, mais si la semence est jetée dans une mauvaise terre, ça ne rapporte rien. Il faut avoir une bonne terre. Ça vous rappelle quoi d'ailleurs ? Voilà, la parabole du semeur, c'est très étonnant. La parabole du semeur, c'est pas possible. Non. Cicéron, c'est vraiment. Je vous rappelle que l'évangile est écrit. Jésus naît à l'époque d'Auguste. Hein. Auguste, il vient après César. Voilà, c'est l'héritier adoptif de César. Donc, et Cicéron, lui, est un contemporain de César. Non, mais on est vraiment dans un imaginaire, on pourrait dire, justement, lié au monde agricole qui nous entoure. C'est ça qui est très intéressant, justement, pour nous. C'est précisément ce que nous avons à penser. Pourquoi il y a ces liens ? Mais il y avait un monde commun, quand même, dont le soubassement était l'agriculture. Hein, Donc, cette idée que la philosophie peut être vaine comme l'acte de culture qui ne rencontre pas une bonne terre, parce qu'on ne va pas rencontrer une âme bien disposée. Parce qu'elle ne va pas rencontrer une âme bien disposée. Comment l'âme est-elle bien disposée? Ça, c'est un mystère. Il dit, c'est par nature. Bon. Naturellement bien disposée. Il y a des âmes bien nées, des âmes pas bien nées. Mais on sent bien que cette question de la bonne disposition, c'est un vrai problème. Et que pour qu'une terre qui est mauvaise devienne une bonne terre, comment faire? Vous voyez, il y a presque... Il faudrait une grâce. La philosophie ne suffit pas, vous voyez. Là, on a l'impression qu'il y a des bonnes terres et des mauvaises terres, donc il y a des bonnes âmes et des mauvaises âmes, et qu'il n'y a pas de possibilité de passage de l'un à l'autre. Puisque la philosophie ne peut pas faire qu'une mauvaise âme devienne une bonne âme. Elle peut simplement cultiver la bonne âme, dans ce passage. C'est curieux. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas être passif. Il y a une culture, les choses sont à développer. Il ne suffit pas d'avoir bien reçu, il faut encore cultiver ce que vous avez reçu. Il ne suffit pas de vous ouvrir à toutes les bonnes semences. Vous voyez, après il faut élever votre enfant. Bon. Si j'ai pris cette comparaison. Non, c'est vrai. Ce sera d'ailleurs un des gros problèmes. Même les transhumanistes, ils veulent faire un être génomiquement parfait, mais ils n'imaginent pas ce que c'est que de le cultiver. Eux qui sont assez cons pour faire un être génomiquement parfait, pour voir que c'est ce qu'il y a de mieux, vous voyez, quand ils vont devoir l'élever, ça va être un énorme problème. Vous voyez, ils ne sauront pas quoi faire. Ils en feront un abruti total, parfaitement abruti, bien sûr.